Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Ouverture triomphale, pleine d'éclat et de majesté, c'était les premières minutes du Te Deum de Jean-Baptiste Lully. Oui, parce que quand on parle de Te Deum, eh bien il n'y a pas que celui de Charpentier. Enfin, c'est donc pour le baptême de son fils aîné que Lully compose ce Te Deum pour soliste, chœur et orchestre, un Te Deum qui retentit le 9 septembre 1677 dans la chapelle de la cour ovale du château de Fontainebleau, et pas devant n'importe qui, puisque le parrain du bambin n'est autre que Louis XIV en personne, qui honore ainsi de sa royale présence son musicien favori. L'œuvre sera reprise de nombreuses fois et la légende veut qu'en 1686, Lully se soit blessé un orteil au cours d'une répétition en frappant la mesure avec un grand bâton de direction, blessure à l'origine d'une gangrène qui l'emportera quelques semaines plus tard. Moralité, un Te Deum, ça ne se dirige pas avec les pieds. Ce n'était bien sûr pas le cas de l'excellent chef d'orchestre argentin Leonardo García Alarcón à la tête du chœur de chambre de Namur et du Millennium Orchestra. Et de Lully, nous passons à Bach. Et pas n'importe quel Bach, un Bach aux sonorités inédites, puisque nous allons entendre maintenant le célèbre premier mouvement du Concerto pour clavecin 1058, mais transcrit pour un consort de 5 flûtes à bec, un consort c'est-à-dire une famille complète d'instruments, du soprano à la basse, en passant par l'alto et le ténor. On croirait parfois entendre un petit orgue dont la douceur fait presque oublier le ferraillement glorieux du clavecin d'origine. Thank you. Encore plus joli que le générique de Bonne nuit les petits, c'était le consort Brouillamini dans une transcription du premier mouvement du concerto pour clavecin 1058 de Jean-Sébastien Bach, un extrait de leur album Flûte en fugue. Et nous voici maintenant en Espagne, et avec l'un de ses compositeurs les plus célèbres, Manuel de Falla, dont quasiment toute l'œuvre est imprégnée du folklore de son pays. Son très célèbre tricorne n'échappe pas à la règle, et c'est Picasso en personne qui signera les décors, les costumes et le rideau de scène lors de sa première représentation à Londres en 1919 par la célèbre troupe des ballets russes. Une histoire de laideur, celle d'un meunier dont la difformité n'empêche pas sa femme d'en être passionnément amoureuse. Courtisée par un gouverneur un peu trop sûr de sa prestance, elle se joue de lui en dansant un fandango provocateur destiné à l'humilier. On ne se lasse pas des accents décalés de cette célèbre danse de la meunière gorgée d'Espagne, dans laquelle les danseurs accompagnés de guitares et de castagnettes frappent le sol du talon. Manuel de Falla marque ses coups de talon à grand renfort de timbales, tandis que le xylophone et le piano imitent avec éclat les roulements de castagnettes. La danse de la meunière de Manuel de Falla, un extrait de son ballet Le Tricorne, Pablo Heras Casado dirigeait l'étincelant Mahler Chamber Orchestra. Connaissez-vous maintenant les Davidsbündler Tänze, autrement dit en français les danses des compagnons de David? C'est en 1837 que Schumann signe ce génial recueil pour piano, 18 pièces pour les 18 ans de sa bien-aimée Clara, avec qui il se fiance en secret cette année-là. Ces 18 morceaux sont parfois signés Eusebius, parfois Florestan. Eusebius est un rêveur sentimental, Florestan un passionné impulsif et généreux, ces deux êtres imaginaires créés par Schumann incarnant bien sûr deux facettes de sa propre personnalité. Alors je vous propose d'entendre successivement un mouvement signé Eusebius, sorte de valse lente, souple et chantante, et de l'enchaîner avec une courte pièce à l'humour persifleur, en quelque sorte comme si Florestan se moquait d'Eusebius. C'était Schumann par Jean-Marc Luisadin, un extrait du disque qu'il a consacré récemment au grand compositeur allemand. Et nous écoutions successivement deux des danses des Compagnons de David, écrites en 1837. Alors à peu près au même moment, le jeune Offenbach, qui vient d'interrompre ses études au Conservatoire de Paris après seulement un an d'études, fréquente les salons et commence à se produire comme violoncelliste. Venu d'Allemagne, il se fait rapidement connaître du public parisien et met en musique avec un certain succès six fables de La Fontaine, dont la plus célèbre d'entre toutes, je pense bien sûr au corbeau et au renard. La musique suit non sans malice l'éternelle histoire du flatteur profitant avec bonheur de la vanité d'autrui.
Le corbeau ne
Vous aurez sans doute reconnu Le Corbeau et le Renard, la célèbre fable de La Fontaine, dont on fêtera en 2021 le quadricentenaire de la naissance. La musique était signée Offenbach et l'orchestration Jean-Pierre Heck, qui dirigeait l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Un extrait du disque que la mezzo-soprano Karine Dehay vient de consacrer à l'auteur de La Belle Hélène. Et puisque notre promenade auriculaire de la semaine nous fait allègrement traverser les siècles et rencontrer un vaste éventail de compositeurs, je vous propose maintenant d'évoquer une œuvre dont la renommée tient plus de la légende qui l'entoure que de son contenu musical. Je veux parler du célèbre Miserere d'Allegri. Le Miserere d'Allegri. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Mais si, vous savez, c'est cette œuvre d'environ 15 minutes que Mozart, après une seule écoute, aurait soi-disant entièrement retranscrite de mémoire une fois arrivé chez lui. C'est le moment de rappeler que cette légende est bien sûr totalement absurde, une vantardise provocatrice de son père Léopold pour faire le buzz autour de son fils. En fait, cette œuvre sacrée, écrite au début du XVIIe siècle, était considérée comme tellement belle, tellement unique, que son exécution n'était autorisée que dans la chapelle Sixtine au Vatican. Toute reproduction ou diffusion était passible d'une amende plutôt dissuasive, l'excommunication. Tibi, soli, peccavi, et malum, coram, te feci, « J'ai péché contre toi, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. »
Sermonibus tuum.
Si vous n'êtes pas en train d'essayer de retranscrire à toute allure cet extrait du Miserere de Gregorio Allegri, j'espère que vous en aurez du moins apprécié l'interprétation fervente et foisonnante des chanteurs du poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Une interprétation pour moi très conforme à la tradition de la chapelle Sixtine, dont les chanteurs captivaient par leurs remarquables ornementations, le tout sans le moindre accompagnement instrumental. L'expression a cappella signifie d'ailleurs à la manière de la chapelle Sixtine, cappella, chapelle, autrement dit, pour voix seule, sans accompagnement. Un peu de Vivaldi maintenant ? Eh bien voici le deuxième mouvement d'une sonate pour flûte et clavecin, dont la fraîcheur virtuose et modulée devrait pouvoir vous réconcilier définitivement avec la flûte à bec de votre enfance. C'était le second mouvement d'une sonate pour flûte à bec et clavecin attribuée à Vivaldi, joliment interprétée par les Brésiliens Inés d'Avena à la flûte et Claudio Ribeiro au clavecin, un extrait de leur récent album Anonimo Venexian. Bon, alors, après un vocal religieux, Allegri, et un instrumental profane, Vivaldi, pourquoi pas un instrumental religieux ? Tenez, voici un magnifique extrait de l'Ascension d'Olivier Messiaen, une pièce glorieuse, colorée, rutilante même, qui marque à mes yeux plus que tout autre la filiation entre Messiaen et Paul Dukas, son professeur de composition au Conservatoire de Paris. De cette œuvre écrite en 1933, nous écoutons maintenant le troisième mouvement, Alléluia sur la trompette, Alléluia sur la cymbale, le Seigneur est monté au son de la trompette. Alléluia sur la trompette, Alléluia sur la cymbale. C'était le troisième mouvement de l'Ascension d'Olivier Messiaen et Paavo Järvi dirigeait le rutilant orchestre de la Tonhalle de Zurich. Le chef estonien a d'ailleurs consacré son dernier album à ce compositeur qu'il apprécie tout particulièrement. Alors, restons au XXe siècle, mais dans une atmosphère beaucoup plus feutrée, beaucoup plus intimiste, celle du compositeur espagnol Federico Mompou. Né à Barcelone en 1893, ce satie espagnol a en effet le culte de la ligne claire et de la simplicité. Une musique volontiers contemplative que le grand philosophe Vladimir Yankelevitch évoque en ces termes. Ce que veut Mompou, c'est atteindre le point intangible où la musique est devenue la voix même du silence, où le silence lui-même s'est fait musique. Nous écoutions La Fontaine et la Cloche, le premier des trois paysages pour piano de Federico Mompou, une pièce composée en 1942 et interprétée par le pianiste américain Andrew Tyson, un extrait d'un album en grande partie consacré au compositeur espagnol. Alors 1942, c'est donc la date de composition de la musique que nous venons d'entendre, et il se trouve que c'est aussi la date de la mort d'Erwin Schulhoff au camp de Wülzburg. Donc nous sommes en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, et ce compositeur juif tchèque de langue allemande a vraiment tout pour déplaire aux nazis. Non seulement ses origines bien sûr, mais de plus homosexuel, et une première période créatrice marquée par des positions avant-gardistes. Il se définissait lui-même comme surdada, compositeur et expressionniste. Enfin, il soutient l'idéologie communiste, allant jusqu'à épouser la nationalité soviétique. Au cours de l'entre-deux-guerres, il fréquente Tristan Tzara, Otto Dix, Paul Klee, et défend au piano toutes sortes de musiques nouvelles, notamment le jazz. C'est en 1924 qu'il compose son premier quatuor à cordes, dont le troisième mouvement, à la Slovaka, est particulièrement puissant et inventif, alliant une sorte de fausse rengaine populaire à un mélange virtuose et savoureux des multiples possibilités sonores des instruments à cordes. C'était le troisième mouvement du premier quatuor à cordes de d'Erwin Schulhoff, Allegro Giocoso à la Slovaque, une musique irrésistible que n'aurait sans doute pas désavoué son contemporain Bartok, brillamment interprété par le quatuor Bella, un extrait de leur disque consacré à trois compositeurs victimes de la Seconde Guerre mondiale, Erwin Schulhoff, Pavel Haas et Hans Krassa. Pour nous remettre de nos émotions, je vous propose maintenant une musique apaisante, thérapeutique même. C'est que rien de véritablement grave ne semble pouvoir affecter la beauté cristalline du Célestin. Cet instrument inventé par le Parisien Mustel est présenté pour la première fois au public lors de l'exposition universelle de 1889. Immortalisé par la célèbre danse de la fée dragée du casse-noisette de Tchaïkovski, qui fait aujourd'hui encore les beaux jours des publicités de Noël, son registre a été étendu à plus de 5 octaves par la maison Schiedmeier, faisant de cet instrument au départ destiné à l'orchestre un véritable instrument de concert, comme le prouve ce délicieux enregistrement de la première arabesque de Debussy. Debussy jouait au Célestat. C'est ravissant, vous ne trouvez pas ? Surtout avec les beaux phrasés de Celia Garcia Garcia, qui consacre un album entier à la transcription pour Célesta de pièces célèbres du répertoire pour piano. Debussy donc, mais aussi Scarlatti, Bach, Schumann, Brahms ou encore Satie et Gershwin. Et maintenant, dans la famille Boulanger, je demande Nadia. Certains d'entre vous connaissent peut-être sa petite sœur Lily, première femme lauréate du célèbre prix de Rome et dont les œuvres vocales ou pour piano sont parfois données en concert. Quant à Nadia, elle aura été l'un des professeurs les plus influents du XXe siècle. Avec plus de 1000 élèves, parmi lesquels Gershwin, Leonard Bernstein, Copland, Jackie Baird, Michel Legrand, Vladimir Kosma, Piazzolla, Philip Glass ou encore Quincy Jones. Elle est également l'une des premières femmes chefs d'orchestre et compose dans sa jeunesse une cinquantaine d'œuvres marquées par l'enseignement de son maître Gabriel Fauré. Écoutons par exemple une mélodie écrite en 1922 intitulée « Le couteau » sur un texte de Camille Mauclair, qui comme dans une rengaine populaire supprime volontiers les « e » de certains mots. J'ai un couteau dans le cœur, ce couteau c'est l'amour d'elle, mais elle ne veut pas le donner.
J'ai un couteau dans le cœur, une belle la beauté. J'ai un couteau dans le cœur et ne peut pas l'ôter. Ce couteau c'est l'amour d'elle. Une peine la planter, tout mon cœur sortirait avec tout mon regret. Il y faut un baiser, une peine la planter, un baiser. Sur le cœur, mais elle ne veut pas le donner. Couteau, reste en mon cœur, si la plus belle t'y a planté, je veux bien me mourir d'elle, mais je veux pas.
Le ténor Cyril Dubois, accompagné au piano par Tristan Raes, interprétait « Le couteau », une mélodie de Nadia Boulanger, extraite d'un album entièrement consacré aux sœurs Boulanger, Nadia et Lily. Toujours du côté de la musique française, j'aimerais vous parler maintenant d'un compositeur dont j'aime particulièrement la musique, Gabriel Dupont. Alors Gabriel Dupont, je suppose que ça ne vous dit pas grand-chose, ce qui est un peu logique parce que c'est un compositeur de grande valeur, mais qui n'a malheureusement pas pu prendre toute sa place dans l'histoire de la musique, en raison d'une tuberculose qui l'emporte au début de la Première Guerre mondiale, à l'âge de 36 ans. Cet élève de Jules Massenet a pourtant écrit 4 opéras, de nombreuses mélodies, le très beau recueil pianistique des Heures de Lente, ainsi que 2 poèmes symphoniques, le Chant de la Destinée, et surtout Jour d'été, dont il écrit l'argument et la musique en 1899. Le troisième mouvement de cet étonnant triptyque symphonique est intitulé Nocturne, mais attention, rien à voir avec l'intériorité calme et mélodieuse d'un nocturne de Chopin ou de Fauré. Non, ce nocturne évoque plutôt une nuit agitée, une forêt mystérieuse rehaussée d'un hautbois plaintif et de cors évoquant quelques chasses maudites, une nature inquiète et frémissante.
Thank you.
un orchestre tout en clair-obscur pour ce nocturne tiré de Jour d'été, l'une des trop rares pièces symphoniques du compositeur français Gabriel Dupont. L'Orchestre Philharmonique Royal de Liège se laissait guider par la direction précise et inspirée de Patrick Davin et déployait toutes ses palettes de couleurs pour servir au mieux les richesses de cette partition. Par ailleurs, nous étions parfaitement raccord, puisque ce dernier morceau du triptyque symphonique Jour d'été, intitulé Nocturne, nous rappelle qu'il est bientôt 18h, que nous sommes en été et que le soleil commence à décliner. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconot. Chef opérateur du son, Cédric Chatelus. À la semaine prochaine.